Bon, toujours content d'être avec vous. On va essayer de réfléchir ensemble. Bessie, Atta, Dismaya, même si j'ai perdu mon cours. Mais on va s'y retrouver. Pharaon, qu'est-ce qu'il veut de nous, Pharaon? Je comprends pas. On est gentil avec lui, on est bien avec lui. Hein? Et voilà que... il veut nous tuer. Il veut nous assassiner. Il nous haït. Que ça soit depuis le début de Shemot. Et qu'on voit la paracha Vera, pareil. Et chaque fois, il reçoit un coup. Et il dit, d'accord, maintenant, on va les libérer. On ne les libère pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pharaon, il ne veut pas nous libérer? Qu'est-ce qui se passe que d'un seul coup, ce Pharaon-là, qui nous aimait, qui adorait les Juifs, d'un seul coup, il commence à nous haïr? Alors peut-être qu'on, je sais pas, hein, mais peut-être qu'on va découvrir la base de la haine des Juifs, l'antisémitisme. D'où il vient cet antisémitisme? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, on a vu que les Bnei Israël, avec Yaakov, ils sont descendus en Égypte. Ils quittent Israël. Ils descendent en Égypte, pour X raisons, démarrent l'exil. Meurent Yosef et tous les frères, et d'un seul coup, qu'est-ce qui a marqué? Regardez bien. Ou Bnei Israël parou Shretzou, et voici que les Bnei Israël se sont multipliés, Vei Shretzou, ils se sont encore plus augmentés, d'accord? Énormément, et la terre a été remplie d'eux. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Dès que les très tribus, les frères de Yosef, ils sont morts. D'accord? Où ils étaient les frères de Yosef? Dans le pays de Goshen. Une partie de l'Égypte où là-bas il y avait tous les Juifs. Tous les Bnei Israël étaient là-bas. Mais voilà que quoi? Dès qu'ils sont morts, ils ont comme... Alors, l'Égypte, c'était l'empire. C'était le pays le plus grand. D'accord? Dans le monde entier, le plus fort, le plus intelligent. Alors, d'un seul coup, les Juifs ont dit, attends. Viens, on sort un peu de Goshen. Peut-être on va aller du côté du Caire. Il n'y avait pas le Caire à l'époque. D'accord? Peut-être on va aller à droite, à gauche, on va promener, on va faire un peu du ski dans les montagnes de l'Égypte. Vatimaler et Totam. De ce coup, la terre d'Égypte, elle s'est remplie de Juifs. Quoi? Vous savez, vous demandez des fois, vous rentrez dans un pays, et vous dites, dites-moi dans votre pays, combien il y a de Juifs? Bien, mais ils sont la majorité! On a demandé à des Chinois il y a quelques années, ils pensaient qu'on était des centaines de millions. Parce qu'on les voit partout, les Juifs. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ton endroit à toi, c'était Goshen. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Pourquoi tu... Et le Midrash, il va plus loin que ça. Il dit à ce moment-là, dès que les Égyptiens, ils ont commencé à construire un cirque. D'accord? Les premiers qui étaient assis, c'était qui? C'était les Bnei Israël. Dès qu'ils ont ouvert un théâtre, les premiers qui étaient assis, c'était les Bnei Israël. Ils avaient rempli le théâtre, rempli le cirque. C'est-à-dire qu'ils avaient abandonné leur raison de vivre. La raison de vivre, l'idéal du peuple juif, c'est quoi? C'est la Torah. Ils ont voulu ressembler aux Égyptiens. Et la terre, elle s'est remplie d'eux. Le Sforno, il dit comme ça. C'est quoi, Vaishkitsu? Ils sont devenus comme des reptiles. Des Juifs rampants. C'est-à-dire, ils sont descendus tellement bas. Aïe. Ils ont voulu ressembler aux autres. Mais toi, tu as une identité. Toi, tu existes. Non. Ça y est, je veux ressembler aux autres. J'aime pas, moi, m'asseoir tout le temps en train d'étudier la Torah. On veut s'en voir autre chose. On voudrait voir un peu de paysage, un peu d'autres civilisations. On voudrait se mélanger avec les Égyptiens. On voudrait s'asseoir dans leur salon et réfléchir avec eux. Et regardez qu'est-ce qui a marqué. Vayaka Melech Hadash. Et voilà, il s'est levé un nouveau roi, un nouveau pharaon. Il s'est levé. Qui c'est ce nouveau pharaon? Nos sages, ils disent c'est le même. Et alors, qui connaissait pas Yosef? Comment? Comment tu connaissais pas Yosef? Le Midrash, il dit, ils sont venus, les Égyptiens, ils ont dit à Pharaon, maintenant, on veut tuer des Juifs. Non, on dit, c'est pas possible. Regardez tout le bien que nous a fait Yosef. Regardez toute la bénédiction que nous a apporté les bénis Israël. Il y avait la famine pendant 2 ans, comme Yosef l'avait prédit pour les rêves. 2 ans, dès que les bénis Israël sont venus, les frères de Yosef avec Yaakov, à ce moment-là, la famine s'est arrêtée. Le Nil, il a commencé à monter. Il a commencé à irriguer toute l'Égypte. Donc vous voyez bien que les Juifs, c'est une bracha. Les Juifs, c'est une bénédiction. Donc on ne peut pas leur faire. Mais non, on ne veut pas d'eux, on ne veut pas. D'un seul coup, il y a une haine qui s'est levée en eux. Jusqu'à que le roi il a dit, bon d'accord, je suis allé avec vous, d'accord. Comment c'est possible qu'on est dans un pays où on a apporté toute la bénédiction dans ce pays-là? Et que s'ils existent et s'ils réussissent, c'est grâce à nous. Et puis d'un seul coup, il y a une haine qui grandit en eux. Et il dit, le roi, qu'est-ce qu'il dit, Pharaon? Mais Omer, à la mort, il dit, venez, venez. Ils sont tellement importants. Venez vite, il faut qu'on réfléchisse, qu'on devienne intelligent, parce que ils vont devenir nos ennemis à l'intérieur de notre pays. Ça va être le cheval de Troie. Comment tu peux penser ça? Bébête, je vous dis sincèrement, que ce soit en Égypte, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier, en Amérique, les Juifs, c'est les derniers à vouloir faire du mal au pays même. C'est des gens qui sont toujours reconnaissants. On ne veut pas prendre la place des autres nations. On veut vivre avec vous, c'est tout. On est les derniers à vouloir faire du mal. Est-ce que nos prisons, elles sont remplies? Les prisons, elles sont remplies de nous? Non. Au contraire, on veut servir la nation. Hein? Quel? Selon, comme ils nous dit notre cher monsieur Daniel Sperling, adjoint maire de Marseille, d'accord, qui est là avec nous, que les Juifs, ils ont toujours respecté la loi du pays. Selon la loi juive, le Shulchan Aruch, on doit faire attention à la loi du pays. Écoutez bien ça. Alors, comment c'est possible qu'il y a une haine qui se crée en eux? Qu'est-ce qui se passe de ce coup alors qu'ils nous aimaient, qu'ils nous adoraient? Si on allait dire, c'est quoi? Il y a des pays antisémites, d'accord? Eh bien, ça va être peut-être la Syrie, peut-être... Mais pas l'Égypte. C'est l'endroit où l'on nous aime le plus. Où on est fier de connaître un juif. Ah, mais pourquoi? Parce que le chef de tous les juifs, c'était Yosef. Et c'est lui qui a donné à manger à toute l'Égypte. Et si l'Égypte, elle est riche, si l'Égypte, elle est ce qu'elle est, c'est grâce à Yosef. Donc, il vient de mourir, on ne peut pas l'oublier. Alors, comment c'est possible qu'ils l'ont oublié? Regardez ce que j'ai vu, un pirouche, une explication extraordinaire. Il dit, comme Melech Hadash, il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Comment tu ne connais pas Yosef? Bien sûr tu connais Yosef, c'est écrit dans les annales de partout. Et là, le roi, il disait, mais attends, ces juifs-là, ce juif-là, qui est là maintenant aujourd'hui, mais c'est pas Yosef, ça. Il ressemble pas à Yosef. Il reconnaissait pas Yosef dans les juifs qui étaient à l'Égypte dans les moments. À ce moment-là, il reconnaissait pas. C'est pas Yosef. C'est pas des juifs, ceux-là. C'est ça qui veut dire un nouveau roi qui s'est levé, qui reconnaissait pas Yosef. C'est pas qu'il a oublié Yosef, non. C'est que dans les nouveaux juifs qu'ils étaient là, en Égypte, qu'ils étaient dans les cirques, dans les théâtres, de partout, mais ils n'étaient pas du tout dans la Torah. Ils n'étaient pas du tout dans leur mitzvot. Ils étaient là à aspirer un idéal, un amour d'une autre nation qui est la sienne, une autre idéologie qui est la sienne. Alors Pharaon, il a dit, ah, ceux-là, ce n'est pas Yosef. Ceux-là, je peux aller contre eux. Ceux-là, je peux maintenant les rendre entre esclaves. Pourquoi? Parce que c'est pas Yosef. Yosef, je respecte. S'il ressemblait à Yosef, je le respectais. Regardez des fois. Spécialement, alors qu'on est une nation, dans Goshen, on est une partie, d'accord? En vivant à part dans Goshen, on nous aime. Et voilà qu'ils ont voulu se mélanger avec les autres. D'un seul coup, il se crée un virus de haine contre les juifs. Alors que le juif, il veut se coller avec le non-juif. D'accord? Et nous, on les aime. Pourquoi? Parce qu'on aime tout le monde. Pourquoi haïr? Pourquoi haïr quelqu'un qui n'est pas juif? On les aime tous. Mais quand tu veux les enlacer, quand tu veux leur ressembler, alors automatiquement, ici, il vient et dit, automatiquement, il se réveille en eux une haine. Ils ne comprennent pas. Il y a une haine contre ces gens-là. Je ne veux pas des juifs comme ça. Regardez comme c'est extraordinaire. Et ça, c'est la Torah. C'est pas moi qui le dis. D'accord? L'esclavage, un des acteurs les plus durs du peuple d'Israël, c'était en Égypte. Prenez chaque garçon qui va naître et jetez-le dans le Nil. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette Shoah-là? À Pourim. Pourquoi d'un seul coup, à Achashverosh, il donne son accord pour tuer tous les juifs? Qu'est-ce qui se passe? On était bien là-bas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et là, juste avant, qu'est-ce qui a marqué? Quand Achashverosh est devenu le roi, d'accord? Qui gouvernait 127 pays, alors il a fait un repas immense. D'accord? Et les juifs, ils sont venus accourus à ce repas-là. Ils ont mangé, ils ont bu. Aïe, 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 nous aussi, on est des citoyens. Nous aussi, on veut vous ressembler. Tout de suite après, qu'est-ce qui a marqué? Et voilà que Aman, il a dit à Achashverosh, il y a un peuple que tu n'as rien à gagner d'eux. D'un seul coup, il y a une haine qui écrit en eux. Donc, selon cette explication, il semblerait qu'une partie de l'antisémitisme, une grande partie, elle vient quoi? Elle vient que comme nous, on s'assimile, alors, comme nous, on veut pas faire une différence, juste une différence idéologique, d'accord? Pas une différence entre toi, tu es juif et moi, tu n'es pas juif, donc toi, tu es moins ou tu es plus. Non, différence idéologique, une différence de deux mœurs. Quand on veut perdre nos mœurs à nous, quand on veut perdre nos coutumes, nos lois juives à nous, okay, et on veut se coller à l'autre, alors automatiquement, l'autre est là qui nous repousse, c'est là qui nous haït. C'est là qu'ils veulent nous tuer. Comme ça s'est passé en Égypte. Et comme ça s'est passé à l'époque de Pourim. Aïe, aïe, aïe. Et peut-être, vous avez qu'à rechercher plus, d'accord? Un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans ce coin d'antisémitisme où il y a 50 ans de ça ou 30 ans de ça? On aurait dit, vous savez, quand même, dans ce pays-là, on n'aime pas trop les Juifs, hein? Non, jamais de la vie. On est tellement bien. On a quitté l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. On fait nos mitzvot de partout. On se balade avec la kippa. Mais malheureusement, combien de juifs ils s'assimilent? Combien de petites synagogues, des petites villes de France, elles se vident? Pourquoi elles se vident? Où sont les enfants de ces Marocains, juifs du Maroc, juifs d'Algérie, juifs de Tunisie? Où sont ceux-là? Où se trouvent? Il y en a un, je vous raconte une chose qui est arrivée, d'accord? C'est un rabbin qui m'a raconté ça. Il rencontre un petit juif là, qui venait de... petit juif séfarade. Il le voit en train de l'acheter la viande à Carrefour. Il lui dit, dis-moi, tous les Danois, on n'achète pas de la viande à Carrefour. Il dit, monsieur le rabbin, vous inquiétez pas, je la cachérise, hein, à l'eau et l'eau sel, hein. Malheureusement. Il y en a un autre, il me dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous pouvez manger chez moi. Non mais, pourquoi de quoi vous parlez de Noël, du réveillon? Vous inquiétez pas, j'ai enlevé le sapin. Il n'est plus là, vous inquiétez pas. Et deuxièmement, si c'est vous parler du repas qu'on a fait, j'ai une vaisselle à part pour le réveillon. D'accord ? Vous inquiétez pas. Leur fête, c'est leur fête. Nos fêtes, c'est nos fêtes. Aïe, aïe, aïe. On raconte au niveau de Tsar, Nicolas Tsar, le Tsar Nicolas, en se baladant comme ça dans... Il voit un juif prodigieux avec les péotes, le chapeau. Il dit, c'est quoi ça? C'est qui ça? Il dit, ça, c'est un juif. Ah bon? Je voudrais le rencontrer. Dis-lui qu'il passe me voir demain. Donc alors, ou demain, ou dans la semaine. Donc vite, ils vont le chercher, ils vont le voir, ils vont la regarder. Tu as une invitation spéciale, tu es invité au royaume. Vas-y. Maintenant, tout le monde entend, il est invité au royaume. Ouais, ouais, Nicolas Tsar, comment? L'année, dit, d'accord, mais tu ne peux pas aller comme ça, avec tes habits comme ça. Il faut que tu changes tes habits, d'accord? Donc alors, il faut que tu arranges ta barbe. Tu la tailles un peu, et même si tu veux la raser, tu peux la raser, d'accord? Donc alors il s'est rasé, il s'est mis en costume, il arrive là-bas. Il dit, qui tu es? Il dit, ben on m'a dit de venir, je suis le juif que tu m'as commandé. C'est pas toi que j'ai vu un autre. C'est l'autre que je veux voir, c'est pas toi. Si tu me montres un juif qui ressemble à un non-juif, ça m'intéresse pas. Je veux voir un juif, moi. Aïe, aïe, aïe. Ben Jacob, il s'est levé un nouveau roi. Et nos sages disent, c'est le même roi. Celui qui nous aimait, il nous haït. Rendre compte. Maintenant, on est en plein exil. Ce qui est drôle, c'est que chaque fois qu'on s'approche de la fin de l'exil, c'est là où on baisse les bras. On arrive à la fin, au début de l'exil, avec Yaakov, Yosef, ses frères. Ça allait très bien. On était en exil, on aurait pu terminer tout l'exil comme ça et rentrer en Israël. Mais juste quand on arrive à la fin, ça y est. On veut plus de notre Torah, on veut plus de nos mitzvot. On a honte de nos mitzvot. Et on croit que quand on va baisser, on va enlever nos habits, quand on va nous enlever nos trucs, alors à ce moment-là, c'est là qu'on va nous aimer. C'est le contraire. Regardez à l'époque de Ezra et Néhémia, la deuxième galoute, deuxième exil, ils sont partis en Babylonie, 70 ans, pas 2000 ans, 70 ans. Nos sages, ils disent que quand ils sont revenus en Israël, ils ne savaient même pas lire, même pas écrire. En hébreu, ils avaient oublié l'écriture. La lecture de l'hébreu, ils l'avaient oublié. Comment c'est à Aleph? Ils ne savaient pas. Ezra, son père qui a ramené ça, qui a retrouvé ça. C'est-à-dire 70 ans, 2000 ans encore, on a tenu pour Hachem, 1500 ans, on était des juifs jusqu'au bout. On a tenu. Et juste à la fin, on perd, on lâche. Comment tu t'appelles? Moi, je suis le petit-fils du grand rabbin. Mais tu ne ressens pas au grand rabbin, Bichlal. À quoi tu ressens, Mesken? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est le descendant d'Abraham, Avinu, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qui reste de toi? Juste à la fin. C'est pour ça qu'on doit tenir. On doit savoir qu'aujourd'hui, c'est un jeu. C'est le jeu de notre vie, de notre nation. Alors, il y avait une tribu qui s'appelle la tribu de Lévi. Aaron, Moshe, ils se baladent en Égypte, sans problème. Pourquoi ce n'est pas des esclaves, eux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce n'est pas des esclaves? Tous les Juifs, c'est des esclaves. Nos sages, ils nous disent, non, non. Au début, le Midrash, il raconte que Pharaon, il a décidé de faire un grand projet national. On va tous construire les pyramides. Nous demandons à tous les citoyens d'Égypte de venir descendre avec une pelle et on va commencer à construire le projet national de construire la pyramide. Alors à ce moment-là, ils sont partis voir Amram. Ils lui ont dit, alors on y va. Non, pourquoi vous allez? Nous, on reste à Goshen. On ne bouge pas de Goshen, on est tranquille. Non, mais vous ne savez pas bien que dans les informations, demain, il y aura écrit. Alors, tout le monde est venu. Il est venu John, il est venu Robert, il est venu, d'accord, Jaco. Mais on n'entendra pas qu'il est venu Moshe, ou Israq, ou Yosef. C'est pas bien, ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et alors, voilà que les bénis Israël, ils ont tous pris leur pelle, ils sont descendus travailler. Pharaon leur a dit, ah, vous savez travailler. Alors maintenant, vous allez travailler de force. Mais il y a une tribu qui n'est pas descendue. C'est la tribu de Lévi. Ils ont dit, nous, on est dans la Torah. Sans Torah, Torah rien. On ne bouge pas d'ici, nous. Hein, on ne bouge pas d'ici. Aïe, 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 écoutez bien. Pendant toutes ces années d'esclavage, la tribu de Lévi, elle a été sauvée de l'esclavage. Pourquoi ? Parce que c'est donné à la Torah. Nos sages, ils disent, tout celui qui reçoit le joug d'étudier la Torah, de se fatiguer, alors à Kochkou, il le dispense de d'autres soucis. Mais celui qui délaisse la Torah, d'accord ? Alors d'un seul coup, il a d'autres soucis, un souci là, un autre souci à droite, à gauche, ça ne s'arrête pas. Il te dit, moi, j'arrête pas de courir, je ne sais pas comment vous faites, j'arrête pas de courir. On dirait je cours après le vent. J'ai pas le temps d'étudier la Torah. Le Shevet Lévi n'était pas en esclavage. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il étudiait la Torah. Parce qu'il n'a pas voulu ressembler au petit Égyptien sympathique. Il n'a pas voulu ressembler à l'autre. Donc à cause de lui, il l'a protégé. Or, sûrement qu'on l'a traité de parasite. Quoi ? Nous, on travaille, viens nous aider. Viens un peu, on a l'esclavage, viens nous aider. Non, mais moi, j'étudie la Torah, moi. Mais soulève-moi, soutiens-moi. Tribu de Lévi, ils n'ont pas eu. Ils ont été sauvés. Grâce à Dieu. Mais regardez bien. Si on avait continué comme ça, tous, on aurait été sauvés. Maintenant, on comprend pourquoi Yaakov, quand il est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'il dit ? Dès que Yosef lui dit, ah, papa, allez, il faut descendre en Égypte. Et Hachem lui dit, descends en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov ? La première chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie Yehuda pour préparer un terrain, pas un terrain de foot, un terrain d'études, la maison d'études pour étudier la Torah. Parce que quand tu n'étudies pas la Torah, tu n'as pas de raison de vivre en tant que juif. Tu sais pas c'est quoi Shabbat. Tu sais pas c'est quoi la cacheroute. Tu sais pas c'est quoi te coller à Hachem. Te coller à Dieu, de ressentir cette émouna extraordinaire. Donc si tu as perdu cette sève-là, cette fibre, alors après tu délaisses tout. Mais si tu as ce feu en toi de Torah, de émouna, alors à ce moment-là tu es collé à Dieu. Donc Yaakov, il a dit à Yehuda, vas-y vite, toi le premier. Pourquoi ? On y va ensemble ? Non, tu avances toi. Il faut préparer la Torah sur le terrain en Égypte. Pourquoi ? Tant qu'il y aura de la Torah, tant qu'on sera protégé. Alors au début, tout le monde est tué, mais après ils sont partis. Donc voilà, à la fin des temps, c'est sur ça qu'on doit tenir. Et vous, quand on parle d'assimilation, quand on voit la situation de nos certains juifs, les pauvres, ce n'est pas de leur faute qu'ils se sont perdus. Nous aussi, peut-être, on était juifs de Kippour. Juifs de Kippour. Mais ça ne devrait pas exister. C'est être juif tout simplement. Pas de Kippour. Vous savez combien l'assimilation elle est grande ? Alors nous, on est contents parce qu'on est dans nos synagogues, d'accord ? On est dans le centre d'études, à Paris, à Marseille, à Lyon, à droite, à gauche. Mais tous les autres, combien ils se perdent ? Des familles entières. Le président d'une synagogue, il m'a dit, alors il a dit à moi, un ami à moi qui était rabbin, il dit, écoutez-moi, mais il faudrait construire un mikvé. Un mikvé, mais pourquoi ? On n'est plus au Maroc, monsieur, on a des baignoires maintenant, on a des douches, on n'a pas besoin de mikvé. Vous êtes arriérés, monsieur. Mais les pauvres, ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas ? Parce qu'ils ont arrêté d'étudier la Torah. Parce que le père, le grand-père a arrêté d'étudier et... Donc voilà où on arrive. Voilà de l'antisémitisme égyptien d'où il est arrivé, de l'époque. Pourquoi ils ont voulu nous détruire ? Parce qu'on n'avait plus cette étincelle de Torah en nous. Je vais vous raconter une histoire. La force de la Torah. Il y avait un juif, une communauté en Angleterre, qui ont dit, tu sais quoi ? Le rabbin qui a parlé de Torah, ça a l'air important, d'accord ? Alors on va faire venir un couple de rabbins, lui et sa femme, on va leur demander de venir s'asseoir et étudier. Et un, ça suffit pour m'en prendre 10. 10 dans nos communautés, comme ça, il y aura la Torah, et ça va tuer un peu les microbes de ce coup, parce que j'ai vu, ça va tuer un peu les microbes, les microbes spirituels, les virus spirituels, ils vont être morts. Donc ils sont venus les 10 comme ça, 10 jeunes couples en train d'étudier, vous inquiétez pas, on vous paye ce que vous avez besoin pour manger, nourrir, loger. La location d'appartement et loger, voilà. D'accord ? Pas de problème. Vous avez un enfant après l'année prochaine, on vous paye aussi pour l'enfant. Extraordinaire. Cette communauté, elle a commencé à se développer. Mais alors, vraiment, et puis d'un seul coup, bon, grâce à Dieu, c'est les rabbins qui étudient la Torah. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont un enfant, deux enfants, trois enfants. Et la communauté, elle paye, elle paye, elle paye. Mais de l'autre côté, ils s'aperçoivent qu'au bout de 10 ans, c'est vrai qu'il y a 5 enfants, 6 enfants, mais c'est la seule communauté qui tient bien, qui est florissante. Et d'un seul coup, il y a une autre communauté d'un coup de plus loin, d'une autre ville, ils se rencontrent. Ils disent, je n'arrive pas à comprendre. Chez nous, des enfants, ils ont envie de drogue, ils ont envie de jouer au poker, ils ont envie de jeter l'argent. Et vous, vous n'avez pas autant comme ça. Non, on n'a pas autant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu dis, moi, je sais, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui étudient la Torah. Ils tuent les microbes, ils tuent les virus spirituels. Donc, ils leur donnent envie plutôt des choses bonnes et pas des choses mauvaises. Aïe, 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 aïe. Et puis d'un seul coup, je vous dis sincèrement, dans cette communauté-là, d'un seul coup, on voit des gens qui arrivent, des nouveaux, des juifs de Kippour qui veulent faire Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben, j'ai envie, j'ai envie. Ah, parce que pourquoi? C'est stérilisé. La Torah, elle purifie tous les alentours. Donc même ceux qui sont loin, ils ont envie de se rapprocher. Mais il y avait une famille de rabbins, un juif, qui étudie la Torah. Mais grâce à Dieu, ils sont arrivés à 10 enfants. 10 enfants, les nourrir, 10 enfants, mais pour Joseph, c'est... Alors, les présidents, ils ont dit, attends, ils ont dit, ça suffit, on peut plus, on peut plus, on peut plus. On attend encore un petit peu. 11 enfants, 12 enfants, ils leur ont dit, ouais, stop, voilà, excuse-nous, mais là, on t'a pris, c'est vrai, on a dit, on te nourrit et tout, nourrit, loger, mais on ne pensait pas que tu allais avoir 12 enfants, on ne peut plus tenir, là. D'accord? Donc, tu nous excuses, mais on arrête de te payer. Bon, il a dit, d'accord. Il dit à sa femme, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne sais pas, moi. Moi, je sais que faire étudier la Torah, j'ai étudié la Torah. Hein. Et puis, c'est pas ça. Celui qui nous a nourris jusqu'à maintenant, il va nourrir encore. Et voilà qu'il n'y a plus d'argent. Comment on fait? Alors sa femme, elle dit, c'est quoi? Viens, je vends mes bijoux, c'est pas grave. Mon mari étudie la Torah. Elle vend ses bijoux. Et après, il n'y a plus de manger au bout de 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va vendre. Cette table, on n'a pas besoin, on peut manger sans table, c'est pas grave. Et puis les chaises, il n'y a pas besoin. Elle a commencé à vendre ses meubles. Après, elle n'avait plus rien. Aïe, comment je fais, Hachem, je t'en supplie, j'ai confiance en toi, Hachem, sauve-moi. Et il va étudier la Torah, il ne bouge pas. Et le prophète, le président dit, écoute, je t'ai dit, tu n'as pas compris là. Une chose, je n'ai pas compris. Mais ça fait, je t'ai déjà dit que je ne pourrais pas te payer. Non, mais je sais très bien que tu ne me payeras pas. T'inquiète pas, je suis là, j'étudie. Je ne compte pas sur toi. Au bout d'un an, ça y est, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Et à ce moment-là, il reçoit une lettre. Tribunal. Ouais, il va s'écrouler. En plus, que j'ai plus d'argent, hein, maintenant on me commande au tribunal. Chez Mirachem, il a commencé à jeûner toute la journée. Je te reçois, qu'est-ce que Hachem, dis-moi, sauve-moi. Il va au tribunal. Carte d'identité. Oui, monsieur Yosef Bloch. Oui, c'est moi. Bon. Ben voilà, vous avez reçu 10 millions de dollars. Il allait tomber dans les pommes. Mais quoi, c'est vous une blague là, mais... Non, 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 je vais vous raconter. Non. Mais c'est pas moi, j'ai personne dans ce pays-là, j'ai personne à moi ici. Ah bon, alors vous avez personne, peut-être c'est pas vous. Vous avez raison. Mais le juge dit, voilà, écoutez bien. Il y avait un riche qui n'avait pas d'enfants. Il adorait les enfants. Il a décidé de donner son argent à la famille qui a le plus d'enfants. Donc jusqu'à il y a 2 semaines, d'accord, il y avait une famille, Dupont, qui avait 12 enfants. Donc c'était elle qui devait recevoir cet argent. Mais il y a 2 semaines de ça, votre femme a accouché du 13e enfant. Donc c'est vous qui avez gagné les 10 millions de dollars. Il rentre chez lui en pleurant en sang. Voilà, je t'invite pas, tout à pas, Hachem. Bémet, si on regarde quelqu'un qui étudie la Torah depuis de génération en génération, comment ils ont fait pour vivre? On ne sait pas comment ils ont tenu. Il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est normal, toi tu arrives parce que tu as un oncle d'Amérique qui t'aide, et lui parce que c'est son cousin. Oui, mais d'accord, mais pourquoi l'oncle il aide à celui-là, et pourquoi le cousin de celui qui s'est réveillé, et pourquoi c'est arrivé comme ça? Hachem, il a des chemins. C'est vrai qu'au début c'est difficile, on se trouve. Avant, le Rav Yosef, il partait sans manger, tu dis à toi. Il avait une tranche de pain avec un peu de margarine dessus, comme ça, pour toute la journée. Celui qui se bat et qui se donne pour étudier la Torah, même qui se donne une heure de temps, il dit, c'est quoi? Aujourd'hui, je travaille jusqu'à 8 heures, je travaille jusqu'à 7 heures. Et après, je vais étudier une heure de temps. Pourquoi? Parce que c'est mon à moi. C'est ma Torah, moi. En quoi je suis juif si je ne connais pas ma Torah? Comment tu peux conduire si tu n'as pas appris à conduire? Tu n'as pas appris le code? Comment tu peux être juif si tu ne connais pas ça? Oui, mais les autres, on s'en fiche des autres. Toi, tu es juif. Et je termine par une autre histoire. Écoutez cette histoire-là. Il y avait un jour un petit paysan en Russie. Ce petit paysan en Russie, il a des vaches à droite, à gauche. Et il y en a un, il vient le voir et dit, écoute-moi bien, tu as plein de vaches. C'est pas dommage, tu connais même pas Moscou. On parle de ça il y a 100 ans de ça. Tu connais pas Moscou? Va visiter, vends une vache et va à Moscou, tu vas faire la fête. Bon, et comment je vais à Moscou? Il allait partir à pied, il va pas à pied, il y a le train maintenant. Tu sors de ta petite maison dans la prairie, d'accord? Et tu marches un petit peu, là-bas il y a le train. D'accord? Et alors il rentre comme ça et puis tu vas acheter ton billet. Donc il va acheter son billet, il s'assoit dans le train, tranquillement, il roule. Et voilà qu'il y a le contrôleur qui passe. Et donc il y a une clochette, toc, toc. Donc c'était dans les compartiments. Les trains avant, c'était chacun son... Il y avait plusieurs compartiments, plusieurs chambres dans le train. Donc dès que le contrôleur, il fait sonner sa clochette, d'accord? De ce coup, la plupart des gens qui étaient dans le compartiment, ils sont rentrés en dessous, là, en dessous les fauteuils. Lui, ce petit Yehuda, d'accord? Il était un peu gros. Il a vu tout le monde en dessous la poussette, en dessous le fauteuil. Il a voulu se mettre aussi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une bombe. Il a voulu se mettre en dessous le fauteuil. Mais il était tellement gros, il est resté coincé. Alors à ce moment-là, le contrôleur, il ouvre la porte. Il dit, ah, le bandit. Et il le tire comme ça par le costume. Il était bien habillé. Il le tire comme ça par le costume. Dis-toi. Il commence à préparer son procès verbal. Alors, comment tu t'appelles? Yehuda. Oui, et comment? Koskas. Ah, non, Koskas, c'est pas russe. Stremli. Alors, il lui dit, alors, tu as un billet? Et l'autre, Yehuda, est sur son billet. Il essaie de regarder, peut-être il est faux. Il voit, il est vrai. Je dis, mais je n'ai pas compris là. Mais si tu as un billet, qu'est-ce que tu fais en dessous? Il dit, monsieur le contrôleur, écoutez, c'est la première fois que je prends le train. Moi, j'ai entendu une clochette, d'accord? Tout le monde se met en sous-fauteuil. Moi aussi, je me suis mis en sous-fauteuil. Alors, le contrôleur, il s'éclate de rire. Il lui dit, je viens, je t'explique, eux, ils sont cachés en dessous le fauteuil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de billet. Mais toi, tu as un billet. Tu as ton billet. Tu comprends? Que les autres, ils se comportent comme ils se comportent. Parce qu'ils n'ont pas de Torah. Mais toi, tu as une Torah. Donc, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas besoin de ressembler aux Égyptiens. Pas besoin de ressembler aux autres, d'accord? Tu peux être heureux avec ta Torah. Tu n'as pas besoin de te faire des châteaux ou te raconter des blagues du matin au soir. Tu es heureux dans ta Torah. Donc pourquoi tu fais comme les autres? Ils n'ont pas le billet, les pauvres. Donc ils ont besoin. Heureusement qu'ils ont ça. Heureusement qu'ils ont des théâtres, des cirques, des stades et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de raison de vivre. Mais toi, tu l'as ta raison de vivre. Tu l'as ton opium. Ton opium, c'est la Torah, c'est ça qui te donne la vie. Sans Torah, tu n'auras rien. Shalom, au revoir.